à toutes et à tous. Patrick, nous sommes tous les deux aujourd'hui pour l'émission de 100% foot. Thierry est proche de nous, mais pas présent cet après-midi. En l'occurrence, nous allons démarrer l'émission et nous allons parler évidemment de la journée de ce week-end de football de Ligue 1. Parler de l'OM en l'occurrence, et évidemment nous allons parler du football régional qui concerne évidemment notre région.
Bonjour à tous, et oui, alors on va essuyer les yeux et on va parler du médiocre match d'hier soir. Médiocre est un terme sympathique. Et puis on dira un mot de Martigues qui a pris un point utile au Vélodrome contre Dunkerque, d'Aubagne et des féminines également, bien sûr.
Oui, avec évidemment une continuité pour Martigues qui était moins sympathique puisque ce week-end, ils s'en sont pris 4 face à Grenoble au Vélodrome aussi. Voilà. Mais on va dégager des points positifs, nous les trouverons.
Voilà. Donc là, on va revenir sur notre match d'hier soir où, dire que nous, on n'est pas surpris parce qu'on n'est pas... comme certains, après la victoire à Lyon, qui se voyaient déjà invaincus et compagnie, on se doutait bien qu'il y aurait des jours sans. La journée sans, on l'a eue hier soir, contre Strasbourg, où en première mi-temps en particulier, on se demandait si les mecs, ils étaient restés au vestiaire ou s'ils étaient sur le terrain. Quoi. Oui. Et voilà, et on s'est rendu compte de certaines petites choses dont on va parler, quelques absences très très préjudiciables.
On a pu le noter, effectivement.
Voilà, et on a les noms. Et puis, quelques joueurs qui sont passés à côté. On verra qu'il y en a un ou deux. Ce n'est pas le premier match qui rate. Et ça commence à questionner un petit peu, en espérant que ça s'améliore, évidemment. Et moi, ce que je vais pouvoir dire au début, pour lancer un peu la discussion, c'est qu'il n'y a rien à dire sur la victoire de Strasbourg. Ils l'ont mérité.
Elle est méritée. Une égalisation n'aurait pas été imméritée également, mais on ne peut rien dire quant à la victoire de Strasbourg.
Disons que l'égalisation n'aurait pas été volée, loin de là. Mais après, il faut les mettre. Voilà, on a eu 2-3 occasions. Le gardien a fait des très bons arrêts strasbourgeois.
Oui.
Mais on n'a pas, dimanche dernier contre Lyon, on a eu de la réussite, disons-le. Plutôt Lyon avant d'Angers.
Pour ne pas dire une réussite insolente.
Et là, hier, on n'a pas eu, malgré un roulis qui a fait un très bon match, le gardien, qui peut rien, on prend un but et on aurait pu marquer, mais malheureusement, on a été pris dans l'agressivité, dans le pressing haut des Strasbourgeois, et on n'est pas arrivé à sortir parce qu'il y a plusieurs joueurs. Alors, et plusieurs absences qui ont posé problème.
Alors, pour synthétiser justement ce match, dans la mesure où on peut parler tactique, j'ai l'impression que De Zerbi et son homologue strasbourgeois avaient et ont la même optique du football. Oui. Au niveau tactique, on était assez proches. Nous avons été plus qu'épiés. On a été non pas copiés, mais en tout cas, l'idée était que pour contrer Marseille, il faut les connaître, faut connaître son adversaire. Et en l'occurrence, ils ont fait ce qu'il fallait pour nous contrer, nous empêcher de développer notre jeu, à commencer par la relance.
Voilà, oui, exactement. On a pu voir que certains choix se sont avérés pas très judicieux. Je pense à Højbjerg qui a fait son match, qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui a cruellement manqué au milieu.
Voilà, était-il, c'est la question que je voulais te poser, positionné dans le meilleur rôle qui lui est justement...
Défense centrale, c'est certain que ce n'est pas son poste habituel, mais entre Balerdi suspendu, Meïté blessé, il n'y avait guère de choix, puisque Brassier était à gauche parce que Merlin était blessé.
Il est vrai, le retour de Cornelius.
Et donc Cornelius a fait un match moyen, mais bon, c'est pas...
Il est resté solide défensivement, mais sa relance laisse toujours à désirer, tel Brassier.
Et disons que Højbjerg, il a surtout, à mon avis, manqué au milieu, en pivot devant avec Kondogbia. Il a cruellement manqué, même si Koné a fait un match intéressant, il a fait un match correct. Mais Højbjerg a manqué par son expérience et le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé avec une équipe déséquilibrée. C'est là que tu vois qu'il te manque 3-4 joueurs clés, tu es en galère. Et ça s'est traduit par une moins bonne relance et par donc moins de bons ballons en attaque. Après, comme tu disais, Franck, l'entraîneur de Strasbourg, Rosenior, il avait bien regardé les matchs, il avait bien lu, il jouait un peu de la même manière. Et donc, pressing très haut, grande agressivité. Et en première mi-temps, on a été battu. Quand tu ne gagnes pas de duel, je crois que c'est De Zerbi qui a dit sur DAZN, quand tu perds 80% des duels, ben, tu ne peux pas gagner un match. Voilà.
Il est évident que ça fait défaut au niveau agressivité, je dirais, de nos joueurs. En tout cas, nous avons perdu pas mal de ballons. Par contre, j'ai lu quelques statistiques qui disaient que dans l'ensemble, on n'avait pas perdu tant de ballons que cela. Ouais. Mais bon, je reste un peu circonspect quant à cela. C'est surtout l'implication qu'avaient les Strasbourgeois qui était nettement supérieure à la nôtre sur ce match. En première mi-temps, c'était quand même très criant. Après ce but, à la 40e minute en première mi-temps, nous avons essayé, je dirais, des repositionnements. On ne trouvait pas de profondeur. C'était quand même tragique de ne pas trouver, je dirais, cette possibilité de relancer. Le premier rideau était passé pour les relances, mais après, on ne trouvait pas, je dirais, les côtés, la profondeur. Et que ce soit, si on peut parler nominativement, de Wahi, notre avant-centre d'hier, je dirais, même si Greenwood a fait un super match, égal à lui-même, meilleur que les autres dans son comportement, dans son placement, il a essayé le côté comme on lui a demandé. Après, il était un peu plus axial pour soutenir Wahi, qui restait en pivot, mais qui n'a pas réussi, à se projeter ou à se retourner ou à jouer avec un partenaire pour trouver la profondeur, et ça n'a pas été possible hier soir.
Oui, et c'est sûr que là, en fait, le problème, c'est que tu prends un but à la 40e, et du coup, en seconde mi-temps, Strasbourg, ils descendent légèrement, ils t'attendent de plus. Et quand on a regardé les stats hier soir, tu as 60% de possession sur le match. En première mi-temps, c'est 50-50. Hein. Mais en seconde mi-temps, tu as 60, sur l'ensemble du match, tu as 60% de possession. Mais qui dit possession, si c'est pour se passer le ballon derrière... Voilà, stérile. Par contre, ce qui a été frappant et intéressant, qui a été d'ailleurs signalé, parce que moi j'ai regardé DAZN et puis après je suis passé sur l'équipe TV en deuxième partie pour regarder un peu les...
Comme la plupart d'entre nous.
Il y avait une stat, je crois que c'était sur l'équipe, où il disait en première mi-temps, Strasbourg 14 fautes et l'OM 4. C'est-à-dire que dans l'engagement, dans la volonté, ils ont fait des fautes, mais enfin... aucune faute grave.
Le match a été assez éloquent.
Voilà, le match a été correct, mais ils mordaient plus, et toi, tu as été un peu faible là-dessus. Et en deuxième mi-temps, c'est peut-être l'arrivée de Rabiot qui a amené un peu de poids. Et puis,
Changements qui étaient fort utiles.
Il a pris un jaune pour une jolie semelle. Mais il a ramené un peu. Et donc, tu as équilibré au niveau des fautes. C'est-à-dire que tu as eu un engagement supérieur. Malheureusement, tu as 3-4 occasions et tu n'arrives pas à marquer.
Oui, voilà.
Parce que le gardien de Strasbourg a fait un bon match. Et parce que tu as manqué un peu de réussite. Bon, on va pas reprocher à Mopé un duel qu'il a pas gagné, parce qu'il joue pas mal le coup.
Avec une intervention de Rabiot, justement, qui avait provoqué cette occasion.
Tout à fait, c'est lui qui fait la passe décisive, enfin, qui aurait pu être décisive à Mopé, qui joue bien le coup, mais le gardien est bien sorti, il a fermé l'angle, il repousse. Et dans l'ensemble, tu as été. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps en particulier... Tu as eu l'impression... Alors, est-ce que c'est dû... j'ai écouté un peu des commentaires de certains supporters et tout. Il y en a qui parlaient de décompression après le match de Lyon qui avait été très intense et où ça, émotionnellement, tu aurais peut-être pu avoir un recul.
Ça reste probable.
C'est peut-être, oui. Mais enfin, sinon, c'est sûr que tu as manqué un peu de... Peut-être la... Le syndrome Balerdi qui prend un rouge à la 4e et 30 secondes. Mais tu as manqué un peu d'engagement en première mi-temps. Tu as rééquilibré. Ouais. Mais tu as été... après, je le redis, il n'y a rien à dire. Strasbourg mérite sa victoire. Tu aurais mérité d'égaliser. Tu joues pas mal en seconde mi-temps. Mais tu ne peux pas parler de de vol ou de déception, non. Ils ont été meilleurs. D'ailleurs, l'entraîneur l'a reconnu et il a dit que bon, ben, ils n'ont pas volé et ils avaient fait un bon match.
Oui, ouais. Un match relativement fort. Et je les avais vus, comme toi, sur quelques matchs précédents, face à Lyon également. Ouais. J'ai trouvé Strasbourg, qui a été une équipe très intéressante, avec de grandes capacités, très jeune. Mais on sent la maturité déjà pour beaucoup de ces joueurs. Ouais. Et c'était vraiment une équipe qui, hier, a été, bah, a été très bonne sur le papier, ouais, et sur le terrain.
D'ailleurs, tu parlais, Franck, du match de Lyon. Ils mènent 3-1, je rappelle, et à 20 minutes de la fin, ils mènent 3-1, ils se font remonter 4-3. Ouais. Et ils se sont fait piéger par des trucs de jeunesse, ils se sont fait balader par les Lyonnais qui ont eu de la réussite. Hein. Tu mets 3 buts en 20 minutes, il y a une part de... Bon, ils ont tenté, ils ont réussi, bravo à eux. Mais peut-être qu'ils ont appris de ça, puisque hier, j'ai remarqué que... Il y avait plein de petites fautes, des obstructions, des petits coups francs à 50 mètres. Ils ont appris, ils ne se sont pas fait prendre des contres comme contre Lyon. Peut-être qu'ils ont un peu appris de leur erreur. Mais nous, ce qui nous a, à mon avis, coûté au moins le match nul, c'est le fait que plusieurs joueurs de l'équipe ont été sous-performants.
Alors, aussi.
Voilà, parce que je le disais tout à l'heure en commençant, Rouli, c'est le seul qui a été vraiment bon. Le but, il peut pas grand-chose, il est fusillé. Derrière, tu as souffert et tu as plusieurs joueurs qui n'ont pas été au même niveau que d'habitude. Le Højbjerg, ça s'explique parce qu'il était défenseur central.
Son positionnement qui n'est pas celui qu'il a habituellement.
Il n'a pas l'habitude de ça. Parce que j'écoutais un débat sur d'autres collègues sur Internet qui débattaient. Oui, plusieurs fois, il avait l'habitude de s'intercaler entre les deux centraux pour descendre, relancer. Il avait fait contre Nice au Vélodrome. Mmh. Quand il y a eu l'expulsion de Cornelius, il était revenu en troisième central. Mais ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même idée.
Un 6 qui recule pour réorganiser entre les deux centraux et un central. Ce n'est pas le même job, surtout qu'il a eu tout le match. Donc, et il a manqué au milieu. Malgré le bon match, le match correct de Kondogbia et le bon match de Koné, il a manqué par l'expérience ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la petite faute qui arrange, qui coupe le truc, le coup d'épaule, le tampon qui fait.
Oui,
qui sert.
Le défenseur d'expérience aurait pu la.
Et donc lui n'a pas été à son niveau. J'en avais parlé la semaine dernière au Brassier, dont tu sens que la relance. J'ai l'impression qu'il a peur. Enfin, voilà, qu'il est...
Solide défensivement, mais j'attendais un peu plus de sa part, un peu plus de cohérence technique dans ses relances, dans ses premières relances en l'occurrence. Mais on a pu passer quand même le premier rideau de pressing, mais c'est le second où ça coinçait vraiment.
Voilà.
Et c'est en milieu de terrain qu'ensuite, entre Kondogbia et surtout, je dirais que beaucoup ont été muselés. Hein.
Harit
avait son garde du corps qui l'a suivi, même quand il allait prendre des consignes auprès de Derby, de son entraîneur. Quoi. Ouais. J'ai trouvé ça assez hallucinant, mais on peut le dire comme Greenwood, qui est vraiment très talentueux, qui a pu se sortir de ce marquage qui était vraiment très, très près de lui.
Très strict, oui.
Ah, mais vraiment très strict, mais il a su changer de positionnement, de côté droit, plus axial, mais ça n'a pas suivi. L'avant-centre Wahi n'a pas réussi justement à apporter justement et à se servir de lui pour jouer et trouver la profondeur.
Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Franck, un petit mot d'abord sur Brassier. Il est inquiétant dans la relance, tu as l'impression qu'il est un peu sous pression, mais n'oublions pas qu'il joue arrière-gauche, qui est un poste où il a débuté, où il ne joue plus depuis 2-3 ans,
c'est cela,
parce que Merlin est blessé, et que Garcia n'est peut-être pas en état de faire 90 minutes, vu qu'il était dans le loft et qu'il a pas la même préparation que les autres.
Avec une entrée en seconde période.
Voilà, il a fait une rentrée correcte,
mais
pourrait-il tenir 90 minutes, ce n'est pas sûr. Donc c'est Brassier qui a pris le poste à gauche, et tu vois que ce n'est pas son habitude. Mais le problème a été Wahi, qui est inquiétant, parce que c'est un joueur qui, en première mi-temps, tu rejoues à 10, c'est pareil.
Oui. Il n'a pas pu se retourner une seule fois et voilà. Je dirais choisir un appui, un pivot, c'est très bien. Mais ensuite, faut-il se sortir de et trouver la profondeur.
Voilà, et
ça nous a cruellement fait défaut hier soir.
Première mi-temps, il n'a pas un seul tir.
Non.
C'est quand même l'avant-centre. Ouais. Et c'est vrai que ton attaque, Luis Enrique a fait le boulot défensif, il a fait... Bon, il avait aussi deux mecs sur le paletot très souvent.
En même temps, il soutenait Brassi.
Voilà, il soutenait Brassi.
Sur son côté gauche, qui avait quelques difficultés.
Ouais. Voilà, avec un ailier qui mettait un peu le feu. Ouais. Et donc, il a fait ce qu'il a pu. Et Greenwood était bien seul en première mi-temps. Il n'y avait que lui devant.
Très esselé, techniquement le seul capable, mais non.
Et ce qui est inquiétant, on en avait un peu parlé la semaine dernière sur Wai, c'est que De Zerbi essaie de le relancer parce qu'il a coûté cher et puis parce que c'est un joueur qui, normalement, a de la qualité.
On l'a vu l'année passée. Hein,
oui, ou il y a deux ans, surtout
deux ans,
à Montpellier.
Avec Montpellier, ouais.
Voilà. Mais par contre, alors, moi, je me rappelle quand il était à Montpellier, je vais regarder quelques matchs à la télé. C'était à l'époque, c'était Amazon. C'est un garçon qui avait beaucoup de spontanéité, beaucoup de frappes, une passe en cloche de Savanier, et pouf, il frappait.
Instinctif qu'on ne retrouve pas.
Voilà, exactement, c'est-à-dire que le gars, tu as l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules, et en première mi-temps, on l'a vu, sur les appels, il n'y était pas, il n'arrivait pas à se retourner, comme tu as très justement dit, Franck. Et il était, tu as l'impression qu'il avait, voilà, qu'il avait des boulets à chaque pied, quoi. Or, quand tu es en difficulté, que les autres font un pressing intense, il faut que tu crées des brèches. Et on l'a vu en seconde mi-temps, quand De Zerbi a fait les changements à la 60e, à l'heure de jeu, quand Mopé est rentré, il a été beaucoup plus actif, et c'est là que tu as eu le contrôle du match, que tu t'es créé deux, trois occasions, dont une par Mopé d'ailleurs, et parce qu'il proposait par des appels, il était au pressing, il gênait beaucoup plus. Est-ce que c'est lié à la fatigue qui a fait que les Strasbourgeois ont un peu baissé, ce qu'ils avaient fait à Lyon, ou est-ce que c'est que tu étais mieux organisé ça comme
ça. Ça se pourrait, en même temps, ils ont reculé leur ligne défensive par rapport à la première période.
Voilà.
Et ça s'est fait de manière naturelle, en menant au score, évidemment. C'est vrai que leur débauche d'énergie était assez formidable en première période. Et en seconde période, ils en ont payé les frais.
Ils ont payé un peu, mais
quelque part.
C'est probablement pour ça qu'ils ont reculé, d'ailleurs.
Oui,
ils menaient
au
score, en plus, ils ont reculé.
Ça nous a permis d'avoir quelques chances offensives que nous n'avons pas su concrétiser.
Voilà. Et nous, le problème qu'on a eu, c'est que donc Harit, qui était en difficulté, même s'il s'est battu, comme d'habitude, Harit, c'est un type bien, c'est un mec qui se bat, qui aime le maillot, c'est pas un problème. Hier soir, il était pas... Autant il a fait de très bons matchs cette saison, autant hier soir, il était un peu en dedans. Carboni l'a remplacé, et tu sens que le mec, il est pas intégré, il trouve pas, enfin, je veux dire... Tu sens qu'il a du ballon, hein. Mais
quelqu'un d'accrocheur, quelqu'un de volontaire, mais
de
technique.
Il a pas trouvé, il a pas.
C'était pas le match idéal pour refaire une apparition.
Il a pas ses repères et c'est vrai que bon, en plus Rob a pris un coup, il était.
Ouais, ça c'est très dommageable parce qu'il y a deux blessures, ben on ne sait pas encore sur notre Canadien qui est un super joueur, hein, il faut le reconnaître. Hein, l'autre.
Ismaël connaît, oui.
Tout à fait. Non, là, je ne sais pas quelle est la gravité. J'espère que ce n'est pas très important. Mais c'est un joueur de grande qualité. Et voilà, qui, évidemment, j'espère que... Par contre, pour notre ami anglais, Rao, également, je ne sais pas quelle est la gravité de la situation. Parce que je l'ai vu sortir dans une condition assez... il était en pleurs presque.
Oui, oui, en plus,
dire,
c'était en fin de match, donc il n'est pas remplacé, parce qu'il avait fait tous tes remplacements. Il avait l'air. Mais après, ça peut être un coup.
Oui.
Des fois, un simple coup, ça fait mal.
On en saura plus dans la journée.
On en saura plus. Sur Koné, ce qu'on peut espérer peut-être, s'il est un peu touché, c'est que du coup, il ne part pas au Canada avec l'équipe nationale. Pas... à la trêve, là, le week-end prochain.
Voilà, on va dégager les points positifs.
Voilà, essayons d'être positifs. Qu'on récupère Merlin, Rongier, Meïté qui nous ont beaucoup manqué.
Voilà, Merlin nous a fait défaut côté gauche une fois de plus.
Oui, ça c'est sûr que c'est une perte dans la qualité de jeu, dans la maîtrise du ballon.
Absolument.
Parce que j'écoutais sur DAZN, d'ailleurs ça a été plus ou moins dit, Strasbourg avait a eu la maîtrise en première mi-temps, et Merlin qui s'intègre et tu glisses à trois axios, et Merlin est intégré au milieu, ben, il t'a manqué. Il te manquait Hoybert qui était en défense centrale, qui avait reculé, et il te manquait Merlin, qui, dont la qualité technique t'apporte beaucoup. Les premiers matchs, il a beaucoup apporté. Et là, c'est sûr que Brassier, qui en plus est axial et pas latéral, défendait, mais n'avait pas le même apport.
Ah ouais, pour densifier le milieu ou ce côté gauche, en l'occurrence, c'est très compliqué.
Ce qui obligeait, on en a parlé tout à l'heure, Luis Enrique à venir filer un coup de main. Et donc, s'il descend filer un coup de main, il est moins en pointe.
Pour trouver ensuite de la profondeur, c'est compliqué si les joueurs offensifs viennent défendre.
Voilà, c'est sûr. Et donc là, et après le problème en première mi-temps, c'est qu'on n'a pas eu de pivot qui nous permettait de remonter, de garder le ballon, de décaler les côtés, de rejouer. Parce qu'il y a un problème avec Wahi. Alors, on n'est qu'à la sixième journée, ne commençons pas à mettre le feu, mais il a, depuis le match contre Reims où il avait vendangé, mais non, il avait, c'était les grandes vendanges de Champagne.
Oui, c'est aussi proche que cela, je m'en rappelle encore.
Voilà, et où il est malheureusement sorti sous les sifflets à une seconde mi-temps, il s'est pris une belle bronca quand il a été remplacé. Disons que tu sens que le gars n'a pas confiance, voilà. Il hésite, il manque de spontanéité, on disait, c'est ce qu'il avait. Bon, moi, je l'avais vu l'année passée quand il était à Lens, en Ligue des Champions, où il avait tenté, il avait gêné très fortement la défense d'Arsenal, quand il avait fait un bon match.
Très volontaire, très opportuniste, j'ai l'impression qu'il... Bon, ça va revenir, c'est ce que l'on peut souhaiter, imaginer. Oui. Maintenant, pour revenir sur les chapeaux de roue comme nous le souhaitons, je pense que De Zerbi va peut-être le refaire jouer en extérieur et peut-être laisser Mopé jouer au Vélodrome. Oui. Mais c'est une idée. Mais en fait,
parce qu'il serait particulièrement lourd. Parce que je rappelle que contre Reims, le deuxième match, le premier match au Vélodrome, en première mi-temps, il a trois... Enfin, il a une action, il a une belle action d'avant-centre où il n'est pas bon, il tire sur le gardien.
Ça peut arriver.
Il aurait pu tenter un lob, enfin ça va. Enfin, il a deux ballons repoussés par le goal dans les pieds. Une frappe d'Hoiberg et une action, c'est une tête juste avant la mi-temps où il est au 6 mètres et où il ne frappe pas le ballon, il le contrôle, il y a une défenseur.
Il est vrai que là, elle aurait pu en concrétiser une sur toi. Ouais, c'était
une ou deux, Bon là, tu vois. Et puis pour le moral, c'est excellent.
Et le résultat du match aurait été changé.
Voilà, et en seconde mi-temps, il a encore deux, trois actions, il n'est pas brillant, et il sort parce qu'il n'est pas dans le coup. C'était l'anglais Rowe qui l'avait remplacé, d'ailleurs. Oui. Et il sort sous une bronca, et c'est un peu, pour un jeune joueur, rappelons qu'il n'a que 21 ans, c'est un gamin qui est jeune, c'est compliqué parce que Montpellier, c'est un club familial, Lens, c'est une étape au-dessus, mais l'OM, c'est encore l'étape au-dessus. Et que peut-être, et comme il a quand même coûté 25 millions, le gars, donc...
Oui, pour, la pour rentabiliser, ce n'est pas encore cela.
Voilà.
Mais
et donc,
il serait bien dommage de le faire confluer parce qu'il n'arrive pas à avoir une bonne prestation au Vélodrome par le public.
Voilà.
Qu'il revienne un petit peu, qu'il se remette de ses émotions et qu'il revienne le joueur qu'il doit être.
Voilà, parce que c'est vrai que hier, je lisais sur les réseaux sociaux, il prend cher, quoi. Tu as joué à 10, l'arbitre ne l'a pas exclu, mais il aurait pu, il servait à rien. Enfin, voilà des trucs qui ne sont pas. Je ne sais pas si le garçon regarde, je ne lui souhaite pas parce que c'est des fois pas sympa. Mais bon, après, alors que c'est un jeune garçon qui vient d'arriver, qui a besoin d'eux, mais je pense que De Zerbi le protège et va essayer.
Je pense également qu'il est très, très.
Qu'il va le protéger.
Il le couvre pas, mais il le protège, oui.
Oui, parce qu'il y a des joueurs, par exemple, Mopé, mais Mopé est plus âgé.
Il a plus de bouteilles.
Oui, ou même Rowe, qui a à peu près le même âge, 21 ans, l'anglais, mais tu sens que le gars ne se pose pas de questions. Ils font ce qu'il avait fait à Lyon, tu dribbles, tu crochets, tu frappes.
Sa spontanéité naturelle, et elle n'est pas impactée par un manque, je dirais, de jeu ou de réalisation. Ben, c'est vrai qu'il a réussi des choses formidables.
Oui, non, le gars, après, il est remplaçant, il rentre en cours de match. On n'en attend pas de lui beaucoup.
Il accepte ce statut.
Voilà, donc il a moins de pression. Mais Ouahi, tu as l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules. Quoi. Mm. Et ça, c'est un problème parce que si tu le... Contrairement, je dis ça par rapport à certains trucs que j'ai lus sur les réseaux sociaux et tout. Si tu le... Il y a même eu un débat à l'équipe hier soir. Faut-il que Mopé devienne titulaire et que Ouahi saute? Si tu le sors, tu le mets remplaçant et l'autre, tu risques de le perdre, le gars.
Oui, transiger comme cela, non, c'est... Non.
C'est pas très
malin. C'est des questions qu'on n'a pas à se poser. Oui, certains journalistes peut-être, mais...
Oui, non, mais parce qu'on sait que les journalistes sur des chaînes, même si des mecs, je suis pas sûr qu'ils le pensent complètement, ils sont pas idiots, ils connaissent le foot, le mec, tu fais ça, tu le tues, quoi.
Voilà.
Tu casses les deux jambes. Donc, mais ça fait partie des trucs, et c'est vrai que les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns qu'on m'a montré, il a rien à voir avec le maillot, virez-le, enfin voilà.
Ah, ils n'en perdent pas une.
Il
appuient ou ça fait mal.
Il y a deux ans, il y avait eu sur Vitinha une campagne comme ça. Ben, résultat, tu es obligé de le prêter, de le vendre, t'en débarrasser, en perdant un peu des sous.
Bon, Vitinha, ça pouvait être légitime à un moment donné. Maintenant, j'aime pas appuyer où ça fait mal et enfoncer les personnes. Oui. Mais là, véritablement, il était temps que Vitinha, c'était pas l'aider de faire cette campagne contre lui.
Voilà.
Mais c'est sûr qu'il faut pas reproduire ça avec Ouahi. Ouais.
Voilà,
surtout pas.
Voilà, et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a raté le match. En tout cas, la première mi-temps, la seconde a été pas mal. Et avec un peu de réussite, on pouvait égaliser. Mais bon, pas eu de réussite, on n'a pas pu. On a fait un match raté, voilà.
Voilà, tu parlais plutôt justement de l'expérience de Strasbourg à Lyon, justement, où ils ont appris de leurs erreurs.
Ouais,
c'est quelque chose qui est réel, puisque le match d'hier soir, on veut preuve, quoi.
Voilà, il y a la preuve.
Je crois que De Zerbi a également commenté notre prestation en ce sens, en disant que c'est bien de perdre des matchs parce que nous allons apprendre de nos erreurs. Ouais. C'était un peu le discours de Bielsa. Hein. Je veux dire, ils doivent bien s'entendre, De Zerbi et Bielsa, parce que leur football est celui que nous aimons. Hein. On ne va pas le nier. Et quelque part, oui, dégageons les points positifs. Je pense que ces erreurs-là, forcément, le football amène des erreurs. Et d'autres s'en plâment, et je peux le comprendre. Quand l'OM, tu les vois aussi flamboyants en ce début de saison, on se dit mince, cette défaite, on tombe de notre piédestal. Mais non, on n'y est pas encore.
Voilà.
Mais nous avons espoir, et bon espoir. En tout cas, nous poursuivons ce parcours. Et je pense véritablement qu'il ne faut pas non plus passer dans l'autre extrême en disant que tout va s'écrouler, on ne va pas y arriver. J'entends ces discours-là. Hein. Alors que nous sommes, qu'on va attaquer la septième journée, simplement.
Oui, voilà. Et comme tu disais d'ailleurs, puisque Franck faisait allusion aux déclarations de De Zerbi, qui cite Bielsa d'ailleurs, et qui explique que la défaite, elle est pour lui, protège ses joueurs.
Toujours.
Et qui explique que on a fait les erreurs, on apprendra, la défaite est logique et tout. Mais c'est vrai que quand tu as vu Brest, quand tu as vu le match à Toulouse, quand tu as vu la première heure jusqu'à l'expulsion de Cornelius contre Nice, tu peux le gagner le match. Parce que si tu joues à ce niveau-là, le match, tu es au-dessus. Tu as quand même une qualité supérieure. Mais une saison, c'est aussi des matchs où tu es moins bien, où tu passes à côté. Des fois, c'est dans la tête. Des fois, c'est les absences. Des fois, ça se goupille mal. C'est vrai que l'engagement de Strasbourg dès le début du match où il rentrait,
on n'a pas su répondre
et cela, ouais. Peut-être on a douté, contrairement au match de Lyon où tu n'as pas douté, tu y es allé. Voilà. Là, c'est, alors que c'est les mêmes joueurs. Oui. Voilà. Et voilà. Par contre, oui, effectivement, des satisfactions et surtout récupérer. N'oublions pas qu'au milieu, Manqué-Rongier, qui est quand même un joueur d'expérience. Meite en défense centrale, qui est un bon défenseur.
Même si cette année, il n'a pas...
Oui, Rongier revient d'une grave blessure, donc il n'est pas... Voilà. Mais enfin, c'est un gars de bouteille. C'est-à-dire, quand ça tangue, c'est un garçon qui, on l'a vu à Lyon, au début, il était en difficulté arrière droit. Dès que, à la mi-temps de Zerbi, dès qu'il a fait rentrer Lirola à droite et qu'il a remis au milieu, c'est un garçon d'expérience. Merlin manque beaucoup et c'est sûr que l'absence de Balerdi derrière a été un handicap. Mais il faut rester constructif. On va repartir maintenant. Par contre, ça te met une pression vendredi prochain contre Angers.
Voilà, oui. Vendredi prochain, donc oui, nous allons jouer face à Angers. On les reçoit, donc le 4, vendredi.
Voilà, et donc là tu n'as pas le droit à l'erreur.
Parce que les enchaînements se font rapidement. Il y aura une mini-trêve après ce match-là. Et ensuite, nous retrouverons le 20 octobre. Nous irons à Montpellier, justement, Montpellier, à la Mosson. Ouais. Avant mon anniversaire, le 27 octobre, que nous connaissons tous.
Le PSG au Vélodrome. Et là, disons qu'il faut absolument gagner contre Angers, parce que sinon, en plus, on connaît Marseille, et avant une trêve ou pendant 15 jours, tu as les équipes nationales, donc tu ne joues pas. Comme on le disait tout à l'heure, espérons que les joueurs qui ont pris des coups puissent se soigner pendant la trêve, pour revenir en forme.
Qu'elle soit bénéfique.
Voilà, ouais. Que Merlin ne soit pas en équipe espoir pour reprendre d'un coup et se retrouver absent un mois. Que Koné ne soit pas avec le Canada pour moi là. Espérons ça. Du coup, ça permettrait de faire travailler, de remettre un peu de jus. Parce que le match du... c'est pas pour l'anniversaire de Franck, je rassure les âmes sensibles. Mais celui contre PSG va compter lourd parce que... te faire taper chez toi par PSG, ça pourrait être difficile.
Tu as des paroles rassurantes, Patrick.
Voilà. Donc, je pense que sur ce que je vois de Paris à la télé, je les ai vus en Ligue des Champions contre Gérone. S'il n'y a pas le gardien qui fait une arconada, qui laisse le ballon passer entre les jambes sur une frappe anodine.
Voilà une référence que nous n'oublierons pas en 84.
Voilà, 84, le gardien de l'équipe d'Espagne, Arconada, Luis Arconada, qui s'est pris un coup franc de Platini, il a pris le ballon dans les bras, le ballon il a échappé, il est passé entre les jambes et il est rentré. Et là, le mec, il a fait le même, et pourtant il était bon, puisque c'était un gardien argentin qui avait fait 2-3 très belles parades avant d'ailleurs, qui avait sauvé son équipe. Sinon, ils se font tenir en échec chez eux par Gérone, et Gérone ne peut pas dire qu'il met scotché, tu vois, qu'il m'est impressionné plus que ça. C'est une équipe qui a perdu ses meilleurs joueurs au Mercato. Savinho, le Brésilien, qui est parti.
C'est une bonne équipe de football qui joue.
City, voilà. L'avant-centre Dobvik, meilleur buteur du championnat d'Espagne, qui est parti à la Roma, en Italie. Et du coup, l'équipe, elle est moins forte que l'année dernière. Et Paris, moi, ils m'ont pas coupé les jambes.
Ce n'est que le début de la Ligue des Champions et beaucoup de matchs. D'ailleurs, ça repart demain et mercredi. Mais bon, ça ne les a pas empêchés au Paris Saint-Germain de reprendre le championnat, de gagner 3-1 face à Rennes. Bon, malgré ce, évidemment que l'accumulation de matchs, il faut garder des équipes type, ils n'ont pas un énorme réservoir comme beaucoup, finalement. Après, l'accumulation de matchs, on en reparlera lors d'une prochaine émission, fait que ça peut impacter beaucoup de joueurs et beaucoup de clubs.
Et pour revenir, tu parlais qu'ils ont gagné contre Rennes 3-1. Moi, j'ai vu le match sur DAZN. Voilà. On ne va pas faire de la pub, mais bon, c'est eux. Quoi. Donc,
c'est eux qui ont la primauté.
Je rentabilise l'abonnement. et bon, moi, ils ne m'ont pas. Bon, Barcola, très bon, oui. Dembélé, il fait du Dembélé, c'est-à-dire il met le feu, mais après il ne sait pas faire une centre, il ne sait pas cadrer
pour
une
frappe. Pour finir les actions, c'est plus compliqué, voilà. Même s'il a progressé.
Et même s'il y a des bons joueurs, Neves, le portugais, c'est bon. Le coréen, Kang In-Lee, c'est un beau joueur et tout. Ce n'est pas un avant-centre, mais c'est un beau joueur. Mais malgré tout, je pense qu'il n'y a plus les exploits de Messi, d'Mbappé, comme les dernières années, où là, tu avais des extraterrestres, tu prenais des buts, voilà. Donc, je pense qu'au Vélodrome...
Tu veux dire qu'il leur manque les joueurs hors normes qui peuvent faire la différence à eux seuls.
Les mecs qui te gagnent les matchs tout seuls. qui est capable de te faire. Parce que moi, j'ai toujours en mémoire le 3-0 du Vélodrome, deux buts d'Mbappé sur deux passes de Messi. Je veux dire, des Messi, il n'y en a pas beaucoup.
Ta mémoire n'est pas altérée.
Voilà. Et donc, là, tu les as plus. Et malgré tout, moi, l'équipe que je vois en championnat et en Ligue des Champions, on verra demain hein, contre Arsenal. Hein.
Voilà, c'est, ça arrive demain.
Elle ne m'empêche pas de dormir. Je pense qu'avec un Rabiot en bonne forme qui fait un duo devant la défense avec Højbjerg, avec un Greenwood qui est en forme, un buteur qui, quand il a un ballon, il le met au fond, et une défense avec Balerdi qui est bien soudée.
Si on peut être dans la justesse et bonifier toutes les actions qu'on va pouvoir développer, parce qu'il est vrai qu'on en parle beaucoup de Rabiot, mais je pense qu'il va être véritablement un joueur clé de cette équipe. Ouais. Vraiment, au milieu de terrain, sa place est assurée. Évidemment qu'avec Højbjerg, probablement. Je pense que c'est le duo qui s'impose et qui pourra justement mettre en place toutes ces actions que nous allons justement, autrement dit, que nous allons marquer.
Voilà. Parce que là, quand même, je pense que le duo Højbjerg-Rabiot, hier après-midi avant le match, je regardais sur Canal Manu contre Tottenham.
Ah oui, j'ai vu le match.
L'ancienne équipe de Højbjerg, Tottenham, où il jouait l'année dernière. Et c'est quand même un mec qui... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il met les tampons quand il faut mettre les tampons. Il laisse un peu traîner. Il fait des fautes utiles. Il a une bonne qualité de relance. Et puis, il peut tomber la grêle. Il ne bronche pas, le mec. Rabiot, c'est pareil, quoi. Rabiot à la Juve, 5 ans à la Juve, après Paris... c'était un élément clé, quoi.
Ah, je pense au binôme idéal.
Ah oui, c'est les mecs qui ne vont pas broncher, qui ne vont pas trembler, qui ont du métier, de l'expérience. Et ça peut être très utile parce qu'on l'a vu à Lyon à 10 contre 11 pendant tout le match, comme 2-3 joueurs d'expérience, Kondogbia aussi.
Avoir la maîtrise du ballon.
Voilà. Avec 2-3 joueurs d'expérience, ils calment les copains, ils rassurent, ils parlent. Et c'était l'intérêt de Rongier, même s'il n'est pas physiquement, il n'est pas prêt. Hein, il revient d'une très grave blessure.
Oui, et puis Rongier pallie à toutes les absences et voilà, arrive...
C'est quand même un joueur...
Le côté suisse.
C'est un joueur intelligent qui, voilà, sait, qui sait jouer, qui a le sens du jeu. Et ça devrait, contre Paris, si tu es, toi, à 100%, tu peux les taper.
Qu'en penses-tu ? Rabiot sera-t-il prêt ? Jouera-t-il ce match, je dirais, comme titulaire ?
Alors, ça, moi, à mon avis, ça va dépendre de s'il est dans l'équipe de France pour le truc qui arrive les deux matchs.
Les échéances qui arrivent très bientôt, là.
Israël-Belgique, s'il y est ou s'il n'y est pas. Est-ce que Deschamps le prendra maintenant qu'il a un peu repris ? Il devrait jouer une heure contre Angers, donc voilà. Est-ce qu'il le reprendra ? Auquel cas, peut-être qu'il aura un peu le temps de jeu. C'est parce qu'il n'avait plus joué depuis le mois de fin juin, le mec.
Il est vrai.
Et il n'a pas fait la préparation. Il était, voilà, puisqu'il n'était plus à la Juve. Il cherchait un club et tout. Donc, est-ce qu'il sera au top ? Sachant que Paris va avoir l'écrou, à mon avis.
Ne précipite-t-on pas, on ne va pas le livrer.
Voilà, on va pas risquer de le bouillir. Mais. À 100%, non, parce qu'il manque de rythme, de compétition.
J'entends bien.
Mais à 90%, c'est quand même un sacré atout. Et puis, je pense que la façon dont il était parti, il n'a pas aimé. Il a peut-être un peu les comptes à régler. C'est PSG, c'est au Vélodrome. Ça serait son deuxième match s'il joue contre Angers.
C'est une évidence.
Il voudra montrer qu'il est présent. Bonjour les gars, je suis là, quoi. Donc, ça peut être une bonne chose. Donc là... Vendredi, il faut absolument taper Angers.
Absolument.
Qui, honnêtement, est une équipe courageuse, mais...
Oui, très faible, qui me semble vouée à la relégation. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et puis, un match, suit un autre match. Et on ne sait pas véritablement de quoi il en sera fait.
Oui, même si sur la relégation, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est qu'il y en a d'autres encore plus mauvais.
C'est souvent ici que cela se passe.
Voilà, moi j'ai vu Montpellier, Saint-Étienne.
Oui. Oulala, ouais.
C'est voilà.
Bon, il est vrai que Saint-Étienne, je ne sais pas si la messe est dite. En tout cas, ils ont pris un chemin qui est quand même assez compliqué.
Peut-être ils ont une actionnaire canadienne là, qui est un mec connu, qui a travaillé à Arsenal et tout, qui a été un des patrons d'Arsenal, Gazidis. le Canadien, d'origine grecque, évidemment.
Oui.
Mais moi, je les ai vus, Saint-Étienne, j'ai vu Angers, j'ai vu Montpellier, les trois, et je ne parle pas du Havre, d'Auxerre, oui. Parce que voilà, c'est des équipes, ils vont se battre pour le maintien, donc il y en a forcément oui. un qui sera au moins barragiste.
Si tu me permets une petite parenthèse concernant ouais. Le match de ce week-end, puisque Monaco est forcément... je dirais un adversaire avec Paris Saint-Germain pour cette saison en ce qui nous concerne. J'ai vu donc Monaco face à Montpellier. Waouh! Mis à part le résultat du score qui nous est pas super agréable, quoi, parce qu'il marque, il gagne ce match à 8e minute d'arrêt de jeu, fin de temps additionnel, et ils arrivent à faire la différence à ce moment-là. Bon, face à Montpellier, qui est une équipe assez faible, on peut le reconnaître, on peut l'observer, et on a pu évidemment s'en rendre compte. Mais effectivement, pour la relégation, on n'en est pas encore là, mais ça commence à se dessiner certaines équipes qui ne joueront pas les premiers rôles.
Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est vrai que Saint-Étienne, ils ont l'actionnaire qui est capable, ce qu'avait fait Lyon l'année dernière, de mettre au mercato de janvier, de sortir le chéquier et de prendre 3-4 mecs qui stabilisent. Parce que là, c'est sûr que c'est une équipe, leur milieu-terrain, un gamin de 18 ans qui a un U17 en équipe de France, un mec français mais qui arrive de deuxième division anglaise et qui n'avait jamais joué en Ligue 1, et un jeune formé au club qui n'avait jamais joué en Ligue 1 ou qui avait 3 ou 4 matchs il y a 3 ans.
Il est vrai qu'après, certains investisseurs peuvent justement sortir leur chéquier pour le mercato d'hiver, mais est-ce que c'est vraiment un coup de hasard, un coup de bol, un coup de chance pour alors trouver la petite perle au mercato d'hiver?
Voilà, mais on sait qu'Angers et Montpellier n'auront pas les ronds, quoi. Et voilà, ils les ont pas eu cet été. Eux, ils ont cette possibilité, mais franchement, quand tu vois les matchs, tu dois. Après, c'est vrai ce que tu disais, le match contre Monaco, ils se sont battus, ils sont malheureux parce qu'un but à la 90 plus 8. Tu perds 3-2 là-dessus, c'est rude.
Ça m'a déçu, je te le dis très sincèrement.
C'était triste pour eux parce que franchement, ils méritent pas. Mais
bon, Zakarian était aux abois.
Oui, il était fou à la fin du match. Mais bon, ils ont fait leur partie. Enfin, nous verrons bien. On va pas leur espérer parce que aussi bien Angers que Montpellier que même Saint-Étienne, hein, c'est les équipes méritantes. Et c'est pas parce que les mecs n'ont pas de rang qu'ils n'ont pas le droit d'exister, quoi. Mais c'est vrai que c'est faible. Quand tu vois les autres, c'est faible, quoi, hein. Franchement, hein. Pour avoir vu quasiment toutes les équipes à la télé cette saison, alors, certains, je les ai vus qu'une fois. Mais je ne vois pas... Tu te demandes... c'est l'équipe de Ligue 2 qui est montée, quoi. Voilà.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est quand même...
Après, il peut y avoir des matchs comme cela, en espérant que ce ne soit pas l'OM qui empaille les frais.
Oui.
Parce qu'on voit souvent ces équipes sortir de leur léthargie contre nous et se montrer vaillants et plus forts que ce qu'ils sont.
Tiens.
Ah, ouais.
Ah oui, c'est sûr que nous, comme PSG, on est les deux équipes qui attisent tout le monde, on est à la télé, on est à 21h, hein, voilà, on est des trucs comme ça. Donc c'est des matchs où y a une, on l'a vu hier avec Strasbourg, il y a une surmotivation.
On génère l'envie de se dépasser,
voilà.
C'est certain.
C'est sûr, et c'est pas un cadeau. Après, j'allais dire, c'est la rançon de la gloire.
Hein. Absolument.
N'oublions pas, on ne va pas être mesquin, mais on est quand même le seul club français qui ait gagné la Ligue des Champions. On ne va pas dire sur un club de la capitale, mais parce que ça serait mesquin, mais ce n'est pas notre genre.
Non, étant donné que nous sommes les seuls, ne parlons pas des autres.
Voilà, on est le club historique. Voilà. Donc, et puis on espère que De Zerbi reprendra en main, qui tirera les leçons de l'échec de Strasbourg, que certains reviendront, on en a besoin, que les autres feront mieux, et puis que l'équipe continuera à nous rendre fiers parce que jusqu'à présent, ils ont fait des bons matchs.
Je n'ai aucun doute sur sa gestion, sur sa communication interne et externe. Il arrive toujours, je dirais, à tempérer les ardeurs qui sont un petit peu véhémentes On ne va pas parler de certains acteurs, on pourrait le faire, mais le temps imparti ne nous suffira pas, ouais, de parler de l'encadrement voilà, technique. Voilà. Et voilà. Au-delà de ça, ben, c'est vrai qu'il arrive toujours à réguler et à garder le sens de la communication véritable, oui, oui, de Zerbi. Et ses joueurs le respectent. Voilà. Ses joueurs, véritablement, sont avec lui. Quoi.
Voilà,
et
oui,
c'est un, ouais, fait qui...
Ah ben, à Lyon, si tu n'as pas ça, tu exploses. Ouais. Voilà. Après, par rapport à ce que vient de dire Franck, juste un petit mot... Il y a peut-être une répartition des rôles entre un qui peut être suspendu, on s'en fout, il n'est pas sur le terrain, oui, il n'est pas sur le banc.
On parle donc, n'ayons pas peur,
Mehdi, qui met la pression parce que malheureusement, alors on ne va pas revenir, je regardais un truc, c'est dans l'équipe, où les mecs rappelaient que Jean-Michel Aulas, pendant des années, quand il y avait un truc pour lui, qu'il avait un péno en bois, mais c'était normal et tout, il défendait l'arbitre. Et quand il y avait un truc qui était contre lui, il gueulait. Mais comme il est vice-président de la Fédé, personne ne lui disait rien.
Voilà. Et il s'était autoproclamé dans ce rôle-là.
Voilà. Et qu'il avait casé des mecs à lui, à la Ligue, à la Fédération, y compris à la commission, ouais, des arbitres et tout. Mais l'ancien avocat du club et son avocat d'entreprise, ils se retrouvaient avec des responsabilités. Donc, sans aller jusque-là, on a pu voir encore avec Nice ou des trucs comme ça, ou avec Lille, quand tu pousses une gueulante, ben, comme par hasard, on t'emmerde un peu moins après. Peut-être qu'il y a eu une répartition entre l'entraîneur qui est très modéré, qui dit « je ne parle pas de l'arbitre » et l'autre qui envoie un peu les pieds.
Non, mais il est vrai qu'il va être sanctionné très rapidement, hein, et on ne sait pas quelle sera, voilà, la hauteur de cette sanction.
Les mauvaises langues feront remarquer que quand on a demandé qu'on enlève le deuxième carton à Cornelius contre Nice pour un gain de temps qui n'était, oui, même pas un gain de temps, alors que l'arbitre avait reconnu...
Il l'a reconnu, voilà, oralement, mais il ne l'avait, voilà, pas notifié sur son rapport.
Interviewé à la télé et tout. Ils ont refusé de regarder, y compris le film de l'interview, parce que, eux, oui, ce qui compte, c'est le rapport de l'arbitre,
et oui,
parce qu'il n'y avait pas de rapport. Sur Benatia, il n'y a pas de rapport de l'arbitre, parce que les déclarations à DAZN sont après le match. Et ils ont demandé à l'arbitre un rapport sur...
Donc, qui a été fait. Dire, et ça, par contre, c'est à charge comme,
oui,
démarche.
Oui, c'est à charge complet. Donc, on peut dire que la commission de discipline qui te parle d'éthique, qui se regarde dans une glace, parce que l'éthique, elle est... Oui, voilà, quoi,
elle est très relative.
Elle est très relative, voilà. Mais bon, malheureusement, je pense... Hein, c'est
pour
juste...
revenir à ce que tu disais, chacun est à sa place.
Oui, oui,
De Zerbi,
oui,
dans son rôle, voilà, Benatia dans le sien, et Longoria qui reste, je dirais, et qui chapote sans justement commenter les dires des uns et des autres.
Voilà. De Zerbi par le foot, Longoria, tu l'entends pas, et l'autre, il est allé au feu. Il prendra un directeur sportif suspendu de temps fou. Mmh. Et il n'y a pas si longtemps, le président de Lille, Olivier Létang, fait la même chose. Et l'année passée, celui de Nice, River, avait,
oui,
fait la même chose.
Oui.
Et c'est vrai que, du coup, on ne veut pas... Voilà. Et ça peut payer, malheureusement.
Est-ce que ça peut tempérer, je dirais, les intentions des uns et des autres?
Normalement, ça ne devrait pas. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche.
Oui.
Donc, est-ce que c'est ça? Personnellement, on n'est pas assez implanté à l'intérieur pour le savoir. Puis les mecs, ils te le disent pas. Hein. S'il faut un truc, ils décident à deux ou trois. Tu n'es pas, toi, mis dans la confidence. Hein. C'est pas vrai. Hein. Mais moi, ça me surprendrait pas parce que ça a déjà été fait. Oui. Je dirais des Giroud, des
Sans
Aulas.
Que ce soit instrumentalisé, je dirais,
ouais,
que les choses, naturellement, se sont déroulées sous... Ouais, la bienveillance de chacun.
Voilà. Voilà.
On va dire ça comme ça.
Enfin, espérons que ça s'arrête parce qu'on n'a, oui, rien à gagner à ces polémiques, même si on a le sentiment de s'être fait enfler. Voilà. Mais bon...
Chacun pense la même chose, mais par contre, n'ose pas tel commentaire et presque serait à même de tirer leur chapeau à Benatia. Ouais. Il a eu raison de dire cela, il a eu raison,
oui, oui,
de,
oui,
s'énerver.
Mais,
mais bon, tout est relatif, une fois,
oui,
de plus.
Oui, 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 parce qu'on n'a pas intérêt. Moi, je regarde souvent l'équipe, la chaîne L'Équipe.
Oui.
Tu vois, tout le temps, en ce moment, cette semaine... l'action qui a valu le rouge à Balerdi, où les journalistes de l'équipe, y compris Vincent Duluc, qui est lyonnais,
oui.
Et qui, voilà, maintenant il fait Paris, mais l'année passée il faisait encore Lyon, il te dit, mais c'est la Cazette qui fait faute, c'est pas lui, il n'y a pas rouge. Mais ça te fout
mais
les boules.
Il aura fallu quand même un temps, parce que moi, quand j'ai vu l'action au moment en direct, j'ai dit, mais tout de même, je suis pas fou. C'est quand même pas Balerdi qui fait la
oui,
faute
oui,
là-dessus.
C'est la Cazette qui lui tient, qui lui tire le maillot, il lui bloque même le bras à un moment. Et comme c'est la Cazette qui tombe, l'autre, comme il est accroché par le maillot et par le bras, plus ou moins, il tombe dessus.
On aime parler d'expérience sur ce type d'action.
C'est disons qu'on va encore t'expliquer que le VAR ne réagisse pas sur un carton jaune. Mais en fait, ils auraient pu dire, dit Courcourt, regarde le truc, parce que...
Oui, ils réagissent si la faute ne doit pas être sifflée
et donc là, ils auraient peut-être pu dire, avant de mettre un rouge à la 4e et 30 secondes, regarde un peu, quoi.
En fait.
Mais enfin, bref, arrêtons de parler de ça.
On
ne
va pas revenir sur cela. Maintenant, allons de l'avant. Les matchs à venir, nous en avons parlé. Et je dirais que restons positifs, parce que cette équipe-là gagne à être... une des meilleures équipes de France, pour ne pas dire la meilleure.
La meilleure, il y a des problèmes de budget qui font que... Mais après, j'entends beaucoup ce discours chez beaucoup de gens, mais il n'est pas faux. Avec la Ligue des Champions, si Paris va loin...
J'ai le même sentiment.
Ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de fatigue... Voilà. Parce que là, j'entendais juste une aparté.
C'est pareil pour Monaco également. Voilà.
Bruno Genesio qui s'est plaint. Alors, tout le monde a dit, c'est un con et tout. Non, il joue le mercredi soir en Ligue des Champions à Madrid contre l'Atlético. Donc, il rentre jeudi à 5h du mat. Quoi. Voilà.
Je parlais des enchaînements de matchs tout à l'heure.
Il rejoue samedi contre Lens, le derby.
Ça qui va être préjudiciable pour le championnat.
Le mec, il te dit, j'ai 48 heures, quoi. J'ai qu'un entraînement. Quoi. Donc, et il a raison, objectivement. Tu aurais pu mettre le match le dimanche, mais comme il y a Monaco qui joue en Ligue des Champions, qui joue Nice, qui joue en Europa League, il y a Lyon qui joue l'Europa League jeudi, il joue dimanche, et il y a OM-PSG.
Il y a la programmation des diffuseurs. N'oublions pas que les diffuseurs sont les payeurs. Et également, ça risque de justement d'impacter les équipes qui jouent en Ligue des Champions pour le championnat.
Voilà. Et là, c'est vrai qu'on va parler, on va faire une petite liaison sur la deuxième division.
Absolument.
Et je regardais Régis Bouard, l'ancien entraîneur de Brouard, l'ancien entraîneur de Bastia. Je crois que c'était hier soir. Qui parlait des incidents en Ligue 2 ou encore à Lorient, il y a eu des lasers sur la gueule des caméramans.
Ça devient récurrent,
Débile.
Débile totalement.
Sauf que quand les mecs ils prennent 40 millions de beIN Sport, ils pleurent pas. En beIN Sport, ils se font pas 40 millions de recettes publicitaires sur la Ligue 2. Il y a des gars qui regardent. Voilà, il faut être clair.
Oui.
Et s'ils veulent les matchs le vendredi soir, ils avaient d'ailleurs prévenu la Ligue, qui a oublié de le dire aux supporters.
Il est là le problème.
Voilà, il est là le problème. Ils ont dit OK vendredi soir et ils ont oublié de le dire aux supporters. Donc, évidemment, les mecs, ils gueulent. Je comprends. Mais tu regardes l'Angleterre, tu regardes l'Italie, l'Espagne et tout. Les Ligues 2, ils jouent vendredi ou ils jouent lundi. Hein.
Voilà. La communication a été biaisée par la Ligue, qui aurait dû justement, au-delà des clubs, justement informer, ça va de pair, les supporters concernés.
Voilà, ils l'ont pas fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dépends tellement des droits télé que tu regardes tous les championnats. N'oublions pas que, puisque je regardais... samedi, il y avait des matchs de championnat d'Angleterre. On a regardé Man City, Arsenal, Man City et tout. Le samedi après-midi en Angleterre, les matchs sont diffusés en France, en Allemagne, en Belgique. Ils ne sont pas diffusés en Angleterre. L'Angleterre, les matchs sont diffusés à l'étranger, mais pas en Angleterre, où on privilégie les stades. Voilà. Et donc, ils font des choix. Toi, tu as des matchs tout le temps, et beIN Sport, ils ont un match le samedi à 17h. Donc, ils ne vont pas concurrencer leur propre match et leurs recettes publicitaires, surtout qu'ils ont l'Espagne, ils ont des trucs comme ça, l'Allemagne. Ils ne vont pas concurrencer les trucs, ils leur font des recettes pour mettre Moi, je n'ai pas vu Martigues Dunkerque, mais j'ai un collègue qui l'a vu. Sympathique match de Ligue 2, combatif, même fait. Quand tu vois la Ligue des Champions le mercredi, tu te
dis... Oui, la comparaison est, voilà, est difficile.
Forcément, quoi. Voilà.
Et bon, pour revenir justement, puisqu'on parle de Ligue 2, la dernière prestation de Martigues, hein, justement, qui recevait au Vélodrome.
Dunkerque, oui.
Une fois n'est pas coutume.
Grenoble,
la semaine dernière. Grenoble, c'était la semaine précédente.
Et Dunkerque, et
là,
ce week-end.
Dunkerque, ce week-end, tout à fait.
Un bon match nul partout, voilà. D'après les échos que nous avons.
Il est vrai que, bon, à présent, du coup, Martigues se retrouve 17e, quand même, avec 4 points. C'est un peu dommageable sur ce classement de Ligue 2. Mais bon, en espérant, il est vrai que ça va être tard pour qu'ils rejoignent leur stade.
Normalement, en janvier.
En janvier, donc en espérant qu'ils puissent tirer au mieux le fait de jouer à Marseille.
Sur ce que je sais, puisque j'ai parlé avec un ami qui a regardé le match... Mm. Parce qu'il est, enfin, il est du coin, donc il regarde le FC Martigues. Ils mènent 1-0, ils ont le gardien expulsé à la 50 et quelques. Une passe en retrait trop courte, il sort, et rouge évidemment, ouais. Il fait faute. Mais ils ne prennent pas de but. Et du coup, ils se font égaliser, mais ils tiennent le 1 partout à 10 contre 11. Contre Dunkerque, qui était deuxième avant de venir au Vélodrome. Donc, ce n'est pas un mauvais résultat.
Ce n'est pas un mauvais résultat. Voilà. Seulement, il va falloir justement enchaîner avec des victoires. Parce que là, maintenant, ça commence à être un peu compliqué avec 4 points.
Un peu inquiétant. Ouais. Mais je pense que l'entraîneur Thierry Lauré pourra jouer sur le fait qu'ils n'ont pas perdu. Ils avaient perdu les deux premiers matchs. Tu parlais de Grenoble, mais le premier match aussi, ils avaient perdu au Vélodrome. Lorient, je crois. Et donc là, c'est la première fois qu'ils prennent un point. Et ils ont tenu à 10 contre 11 pendant une demi-heure, ne concédant que l'égalisation. C'est pour eux, c'est positif. Il leur manque en plus 6 ou 7 joueurs. Oui, ils ont mal de blessés.
C'est vrai que Thierry Lauré arrive à créer une équipe cohérente avec toutes ses absences.
Voilà, et donc en Ligue 2, qui a l'air un championnat bizarre, parce que... Tu regardes les équipes en tête, là c'est le Paris FC. Bon, c'est une équipe qui a des moyens, mais tu avais Grenoble, tu avais Dunkerque qui
Paris
était
FC deux. Avec 15 points et Grenoble second avec 13 points. Voilà. Martigues, je le répète, est 17e avec 4 points. Bon, il va falloir relever la tête.
Et tu as Dunkerque et Pau à 12 derrière, qui sont pas des grosses équipes. Donc elle est assez bizarre cette Ligue 2. Tu as l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et donc, il va falloir que les Martigues s'accrochent, mais évidemment, on les encourage.
Voilà. On est de tout cœur avec eux.
De tout cœur avec
En espérant le meilleur, justement. Voilà. Petite parenthèse également, on va parler de National avec Aubagne, qui ne fait pas pâle figure, qui fait un début de saison qui est quand même très, très intéressant. Comme on dit, on paye les musiciens à la fin
du
bal. Bon, Aubagne est 11e avec 8 points. Après ce match, justement, face à Dijon en Côte d'Or, où ils ont perdu 1-0 malheureusement. Je n'ai pas vu le match, j'ai pas eu d'écho, mais enfin, d'après quelques commentaires, ils n'ont pas été déplaisants dans le jeu. Ouais. Bon, maintenant, il va falloir justement continuer, sachant que... le premier, c'est Boulogne avec 14 points et Nancy, deuxième avec 12 points. Voilà. Aubagne avec 8 points doit se battre jusqu'au bout pour essayer de rester au moins en haut de tableau.
Ils sont 11e, mais je crois qu'ils sont à égalité de points.
Égalité de points.
Point avec les équipes qui, je crois, ils sont 8e.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Mais à égalité de points au goal average, ils sont 11e, mais ils sont à touche-touche. Donc. C'est un bon début pour une équipe qui n'a pas de gros moyens et qui, elle aussi, ne joue pas dans son stade. Hein, parce que le stade d'Aubagne, il est en travaux.
Il est en travaux également,
décidément. Il devrait être récupéré fin octobre, début novembre. Et donc, il joue à par semaine, enfin à Istres et tout. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas jouer dans son stade. Tu as des problèmes de repères.
J'ai connu ça avec Istres il y a quelques années, il y a 20 ans, pour ne pas le dire, où il jouait avant par semaine, qui jouait à Turquan. Comme quoi, Martigues, qui n'a pas de stade, qui joue au Vélodrome, et par semaine, où Aubagne joue parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer chez eux.
Alors, on précise qu'ils ne jouent pas chez eux parce qu'il y a des règlements qui font qu'un club qui vient de National comme Martigues, en Ligue 2, il y a des contraintes. sur les stades, sur l'éclairage, sur la sécurité, sur tout un tas de trucs qui font que pour être agréé en Ligue 2, il faut des travaux qui sont longs, qui sont chers. C'est pour ça que Martigues ne récupérera son stade qu'en janvier.
Au mois de janvier, c'est ça.
Voilà, et si par malheur, ils venaient en redescendre, ils ont fait tout ça pour pas grand-chose. Ce qui est un peu... La Ligue ne fait pas grand-chose pour aider les petits. On se rappelle de l'Usenat qu'ils avaient refusé la montée. Et au Bagne, il y a le même problème. C'est des mises à niveau de stade qui font que pendant 3-4 mois, d'abord, il y a
Des normes qui ne pourront pas être justement respectées.
Hein. Quand tu penses que Martigues, c'est le plus petit budget de Ligue 2.
Le plus petit budget, oui.
7 millions d'euros, c'est le plus petit budget de Ligue 2. On te demande 1 million et quelques de travaux. La mairie, d'accord, file un coup de main, mais... C'est complexe et du coup, pendant 6 mois, la moitié de la saison, tu joueras sur terrain neutre. Et ils avaient le choix entre le Vélodrome et Guignon. Donc, ils ont préféré pour des raisons...
C'est quand même assez improbable comme choix.
Mais c'est vrai que j'ai vu des images à la télé. Le Vélodrome avec 2000 spectateurs, en gagné, en gagné bas, en gagné première série. Tu regardes, tu dis, ça fait... ça sonne creux, c'est compliqué et...
C'est rien de le dire.
Voilà, les mecs, ils n'ont pas leur repère, quoi. Voilà.
Voilà, ben écoute, restons, en tout cas, terminons sur une note positive. Oui. Nous arrivons au terme de notre émission. Voilà, si on parlait un peu des féminines, en l'occurrence, l'OM, en D2, voilà, leur dernier résultat en date...
Toulouse, partout.
Hein. Absolument. Et bon, ben, au classement, ben, l'OM est donc premier avec 7 points.
Espérons que ça marche, parce que ça fait 2 saisons qu'elles finissent seconde, ou elles finissent à la limite de la Ligue 1. Je crois que c'est Nantes qui est montée l'année dernière, où il y a Strasbourg et Nantes. Et donc, tu te retrouves chaque fois, mais à 2-3 points à la frontière. Et il n'y a qu'une montée.
C'est ça le truc, c'est que nous ne sommes qu'à la troisième journée.
L'OM,
donc, à 7 points, est premier du championnat des deux féminines, talonné par Lille avec 6 points, et Tonon-Gaillard, également avec 6 points. Oui. Voilà.
Et je crois que Lille était en Ligue 1 il y a deux ans.
L'année dernière, ils ont été relégués.
Donc, c'est des équipes un peu solides, mais c'est bien, et tu essayes de rebâtir.
Oui, avec un encadrement différent et une autre optique de jeu, en espérant que ce soit bénéfique.
Voilà, et on leur souhaite évidemment bonne chance, et on ira les encourager au campus quand il y aura des matchs. Sauf qu'on ne reçoit pas le PSG au campus, puisqu'ils sont en Ligue 1.
C'est en Ligue 1. Ah, je peux faire une parenthèse qui fera plaisir à un ami en commun. J'ai l'impression que, me tromperais-je, que la Juventus de Turin aurait éliminé le Paris Saint-Germain féminin.
Il y a des mauvaises langues qui disent
pour la Coupe d'Europe.
Ils se seraient fait exploser par la Juventus, 2 défaites à Turin et à Paris.
C'est ce qu'il m'avait semblé.
Mais c'est peut-être des mauvaises langues, j'ai pas eu confirmation, mais ils seraient éliminés de la Ligue des Champions féminines.
Simplement des personnes qui savent de quoi ils parlent.
Voilà. Bon, ben, mais on ne sera pas mesquins. Voilà.
Jamais de la vie. En tout cas, ben, nous allons terminer. Nous allons vous remercier pour votre attention. Et nous vous souhaitons une bonne semaine. En vous espérant que le meilleur se produise pour nous. Pour vous.
Et en espérant retrouver Thierry, qui ne soit pas bloqué par son travail, lundi prochain.
Les impondérables sont toujours là.
Voilà. Merci et bonne soirée.
Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.